un formulateur, une personne en réglementaire, ils aiment bien travailler sur des choses qui sont inspirantes, innovantes et challengeantes. Quand tu passes ta journée à faire du screening de formules, ben ça te saoule un peu. Et donc du coup, ce que Goodface fait, réduit l'ensemble de ces étapes à, au final, faible valeur ajoutée, pour leur donner plus de temps pour travailler sur des problématiques business intéressantes, challengeantes. Donc on a par exemple énormément d'entrées de produits en Chine, où on a vraiment besoin de réfléchir sur ce qu'on va lancer, pas lancer, etc. On préfère donner du temps aux formulateurs, aux personnes réglementaires pour travailler sur ces gros dossiers et pas passer 30 heures par semaine à faire un screening de Dinky pour tel ou tel retailer, quoi.
Bonjour, je suis Chantal Soutarçon. Bienvenue sur Beauty Toaster, le podcast dédié à la cosmétique en mouvement. Imaginez une super plateforme qui vous permettrait de formuler vos produits plus rapidement, d'avoir accès aux réglementations cosmétiques du monde entier et aux clean lists des retailers internationaux et plus encore. Utopie ? Ben, on est en 2023 quand même. Aujourd'hui, je reçois Luca Nannini, le directeur France de The Goodface Project, une plateforme bijoux d'intelligence artificielle qu'on pourrait grossièrement qualifier de ChatGPT de la cosmétique. Allez, à vos écouteurs, c'est l'heure de Beauty Toaster. Bonjour Luca.
Bonjour Chantal.
Qui es-tu ?
Moi, je suis une personne qui a évolué malgré elle dans la beauté ces 15 dernières années. Formation chimiste, je suis allé en fait dans cette industrie via mon premier boulot chez Procter & Gamble en fait. Et très rapidement, ça a pivoté de chimie à shampoing, à fragrance, à soins, etc., etc.
D'accord. Et donc plutôt marketing ou
Ben, j'ai commencé avec un profil technique en fait.
Technique.
À la base, c'était plutôt vraiment sciences des matériaux, polymères, chimie. Et on m'a très rapidement jeté sur les projets presque littéralement sur les projets d'innovation, tout
d'accord.
Ce qui était innovation avancée. À l'époque, on appelait ça front-end innovation, les innovations qui sont à horizon 5-10 ans. Et je suis vraiment tombé amoureux de ça. Et l'innovation par défaut, il y a vraiment une composante technique, technologie, et une composante consommateur-marché. Et à partir de là, c'est là où j'ai commencé à transitionner plutôt sur la partie business, entrepreneuriat, marketing.
D'accord. Et alors, comment est né The Goodface Project ?
Alors, Goodface Project, c'est un projet de deux fondatrices, Eva et Liena, qui sont basées à San Diego aux États-Unis. Et c'est né en fait de l'observation d'Iva quand elle était en cabinet de conseil que en fait les besoins des consommateurs commençaient à changer, et ça on parle de ce qui se passait il y a peut-être 6-8 ans, et le fait qu'en fait les deux gros besoins qu'il y avait déjà à l'époque en signal faible étaient la transparence sur ce qu'on mettait sur sa peau, mais aussi toute la partie safety, le fait qu'il n'y ait pas d'ingrédients dangereux à appliquer lors des utilisations des produits. Et donc la toute première expression de ce produit par Eva et Liena, donc Eva est la CEO et Liena est la CTO, ça a été de créer une app aux États-Unis qui existe d'ailleurs encore aujourd'hui, et qui est un peu l'équivalent de ce qui se faisait à l'époque avec Yuka,
ouais.
Mais avec une profondeur d'information qui était décuplée. Toutes les sources papier scientifiques, tout ce qui était des données sur les ingrédients divers et variés. Donc ça a été la genèse de ça avant que ça devienne une solution aujourd'hui B2B.
D'accord, ok. Alors peux-tu nous dire dans le détail ce que c'est en fait, The Goodface Project ?
The Goodface Project, c'est un peu une sorte de Robin dans l'équipe Batman et Robin. En anglais, on appelle ça un wingman. Et puis c'est vraiment en fait un assistant intelligent sur l'ensemble du process de l'exploration innovation ingrédients à la qualification de ces ingrédients, la formulation, le réglementaire, jusqu'à la préparation au lancement. Nous, on s'arrête au moment du lancement. Il y a plein d'autres choses qui existent par la suite pour l'enregistrement des produits, finalisation de la production. Ça, c'est ce qu'on touche pas. Nous, on est vraiment une entreprise innovation ingrédients, un peu une entreprise ingredient tech ou ingredient AI. Et là, c'est vraiment le périmètre dans lequel on évolue.
Ok. Et donc, je crois qu'il y a trois outils.
Il y a plusieurs volets, ouais. Il y a plusieurs piliers. On a vraiment un outil. Je vais aller du de l'aval à l'amont, on a vraiment toute la partie réglementaire, gestion des alertes. Et la partie réglementaire, elle est assez étoffée parce qu'on n'a pas seulement la partie réglementaire par pays, mais tu as aussi toute la vague des ce qu'on appelle les clean lists des grandes enseignes aux US qui arrivent maintenant en Europe, également en Asie. Ça, c'est une grosse tendance qui arrive chez nous.
Clean list, ça veut dire que tous les grands magasins, enfin tous les retailers, en fait, ont aujourd'hui une liste de produits dont ils excluent certains ingrédients.
Exactement. On a souvent l'appellation RSL, Restricted Substance List. Donc c'est vraiment la charte des ingrédients qui sont exclus.
D'accord.
Et qui n'est d'ailleurs jamais la même d'une grande enseigne à l'autre.
Ouais, j'imagine.
C'est là où il y a tout le challenge. Ils ne veulent pas que la liste soit trop restrictive, sinon ils n'auraient plus rien en magasin. Et ils ne veulent pas qu'elle soit trop inclusive, sinon bah, ils ne feraient pas vraiment grand-chose là-dessus. Donc ça, c'est vraiment un des gros piliers. Et c'est cette activité qui nous a fait connaître énormément aux US. Et avec cette vague de clean list des grands magasins qui arrivent en Europe, c'est là où on commence à avoir également pas mal de traction. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est vraiment toute la partie gestion des formules, préparation aux expériences, toute la partie documentation et vraiment garder cette unique version de la vérité tout au long du développement produit avec le partage des formules ou des documentations, des informations entre un fabricant à façon et une marque, entre un fournisseur d'ingrédients et un fabricant à façon. Donc là, c'est vraiment la sorte d'espace de travail et de collaboration au niveau de la formulation. Et la troisième partie qui est beaucoup plus en amont, c'est vraiment la découverte d'ingrédients et surtout on a pas mal de choses sur des modèles prédictifs. Je pense qu'on va peut-être en parler un petit peu par la suite, qui est la partie qui est beaucoup plus innovante, beaucoup plus en amont.
Alors, je reviens sur la partie formulation. Il existe déjà des outils qui facilitent la formulation. Ouais. Qu'est-ce que ta plateforme apporte de plus à un formulateur?
C'est une bonne question. On a pas mal d'outils qui sont assez sympas et assez performants. Faut savoir que l'Europe là-dessus, en fait, est pas mal logée. On a notamment, nous, sur ce qu'on voit, en tout cas sur notre périmètre, il y a des outils comme Cosmétrie. En Allemagne, il y a des outils comme Coptis en France, et ces outils sont principalement ce qu'on appelle des PLM, des Product Lifecycle Management, qui permettent la gestion de la formule du début à l'enregistrement. La différence que nous on a sur cette partie-là, c'est qu'en termes de formulation, il y a certains points sur lesquels on va pas vraiment toucher ou investir. Un exemple tout bête sur la partie formulation, il y a plusieurs étapes. Il y a bien sûr la partie idéation et ce qu'on va mettre dans la formule. Mais ensuite, on a la partie préparation au labo avec les batchs et les expériences, etc. Et ça, typiquement, c'est une partie qu'on va pas toucher. Parce que la valeur ajoutée, c'est pas la plus importante et la plus grosse frustration pour les marques. Et puis, il y a aussi des logiciels qui font ça très bien. Coptis en gestion des batchs, très bien. Batchmaster en préparation des batchs, très bien. Et donc, du coup, nous, l'approche qu'on a, c'est soit on construit des outils sur des choses sur lesquelles il n'y a pas de solution ou des solutions moins bien faites, ou alors on travaille sur ce qu'on appelle des intégrations pour pouvoir, en fait, se brancher directement sur des plateformes existantes. Donc on essaie vraiment de focaliser, nous, notre énergie et nos ressources sur ce qu'on sait sur la partie technologie, la partie AI et la connaissance des ingrédients.
Ouais, d'accord. Et concernant le pilier prédictif, l'outil prédictif, alors, qu'est-ce que c'est?
Bon.
Comment ça fonctionne? À quoi ça sert?
Alors la partie prédictive, c'est la partie qu'on a cachée ces 5 dernières années, en fait. Et pour revenir là-dessus, je vais te donner un peu une présentation très courte de notre pièce maîtresse, c'est notre ontologie d'ingrédients. Alors pour clarifier ce que c'est, l'ontologie d'ingrédients, c'est une sorte d'arborescence qui permet de lier l'ensemble des ingrédients qu'on a, mais également un ingrédient avec ses synonymes, avec son cousin, avec ses jumeaux, etc. etc. Aujourd'hui, l'ensemble des systèmes mettent les ingrédients dans une base de données, un peu comme une liste. Chaque ingrédient est sur une ligne. Et nous, ce qu'on fait, on crée vraiment ce réseau de connexion entre ces ingrédients et les relations qu'ils ont entre eux. Donc, c'est vraiment une version intelligente de ce qui se fait sur la partie base d'ingrédients. Et cette partie-là nous donne en gros des super pouvoirs. Pour donner un exemple vraiment concret, pour que les auditeurs puissent comprendre ça, aujourd'hui, on a pas mal de challenges et de choses qui sont assez décriées sur le 1,4-dioxane aux US. Avec ce qui se passe avec les lois de New York, etc. Aujourd'hui, l'incadioxane a d'autres synonymes, diéthylène éther et autres. Toutes les bases de données aujourd'hui et tous les outils ne prennent pas en compte les synonymes. Okay. Donc si par exemple on revoit une formule et que le 1-cadioxane est exprimé différemment, ben, le problème ne sera pas capturé. Et l'avantage de cette ontologie ou de cette arborescence, c'est que ça nous permet de faire des choses assez puissantes. Quand on en arrive par exemple sur ce qu'on appelle de la substantiation de revendication, ça nous permet d'avoir accès à tous les papiers de recherche pour un ingrédient précis, en combinant les langues, les fautes d'orthographe, les différentes appellations, etc., etc. Mais également sur la partie prédictive, ça nous permet d'avoir des jeux de données davantage enrichis, et on a des applications sur nos modèles prédictifs que je vais lister prochainement, qui sont aussi bien des applications techniques que business.
Ok.
Alors pourquoi est-ce qu'on les a gardées secrètes? Quand on développe un modèle, il y a différentes étapes, collection des données et la connexion des données entre elles. Ça a été ce qu'on a fait sur les deux premières années. Ensuite, identification des modèles qui seraient intéressants et entraînement des modèles. Et la troisième partie, quel est le meilleur moment pour aller le présenter? De notre côté, on était assez parano. Et donc, du coup, on a préféré pas les présenter avant d'avoir validé et testé tous ces modèles.
Okay.
Donc aujourd'hui, on a plusieurs modèles. On a des modèles où on peut prédire ce qu'on appelle en anglais le predictive hazard, ou les risques sur certains ingrédients, même sur des molécules nouvelles, qui est seulement possible grâce à cette ontologie, cette interconnexion entre les différents ingrédients. On peut faire également du predictive liking. Donc, est-ce que les gens vont aimer telle ou telle formule en fonction de la place de tel ingrédient dans la formule? Si on change cet ingrédient de place, on peut augmenter de 0,5 étoiles le rating de tel ou tel produit.
Ok.
On peut aussi faire du reverse design. Alors, le reverse design, c'est assez puissant et ça a été une demande depuis des années de tous les acteurs de la beauté. Aujourd'hui, une marque qui lance un produit sur le marché, ce qu'elle va faire, c'est très simple. Elle va prendre un produit sur le marché, elle va prendre la liste des ingrédients, elle va aller voir son labo R&D, elle va dire, bah, tiens, voilà mon benchmark, fais-moi quelque chose comme ça, mais unique, qui est propre à moi. Et aujourd'hui, ce que nous, on est capable de faire, c'est de donner des indications sur comment est-ce que cette formule a été faite avec les matières premières.
OK.
Pas les inkies.
Oui, d'accord.
Donc, c'est un peu comme l'exemple du frigo Samsung. Voilà les ingrédients qu'il y a dans ton frigo, voilà les plats et les recettes que tu peux faire.
Ok.
Et puis on a encore deux autres modèles, mais que je ne pourrais pas couvrir aujourd'hui malheureusement.
D'accord. Et quand j'entends ça, je me dis, est-ce que ça pourrait être aussi un outil qui pourrait servir à plus ou moins à court ou long terme pour par exemple des reformulations?
Ouais, alors c'est très bonne question et point ultra pertinent. En fait, quand on combine cette ontologie et vraiment les relations entre les ingrédients, ça nous permet de faire ensuite un travail sur des permutations ou des substitutions. Et alors, faire des permutations ou des substitutions au niveau de l'inky, c'est bien. Le problème, c'est que quand on change un inky, en général, cet inky est dans une matière première, ça veut dire que ça va changer l'équilibre de la formule. Il y a pas mal de travail d'équilibrage de formule qui arrive par la suite. Et au final, on arrive à tout refaire d'un coup.
Ouais.
Donc c'est vrai que sur ce travail-là de substitution, de reformulation, c'est là où on peut, en tout cas, réduire le nombre d'essais pour arriver à une reformulation qui tient la route.
Ouais, d'accord. Et alors, je crois qu'il y a un quatrième pilier qui est en développement ou en voie de développement. Tu peux nous en parler? Il s'agit de la library, je crois.
Ouais, la librairie d'ingrédients. Alors, entre le moment où on s'est parlé la première fois et aujourd'hui, elle a enfin été déployée en bêta.
Ah, ouais.
Donc, nos formulateurs ont maintenant accès à cette partie-là. Et comme je l'expliquais au début, la façon dont on design en fait cette nouvelle fonctionnalité, nous on est une boîte tech, donc c'est la moitié de l'effectif qui est tech et l'autre moitié qui vient de l'industrie comme moi. Et sur cette librairie, la demande qu'on avait, c'était principalement sur les formulateurs et les marques, et j'ai des requêtes tous les jours hein, d'ailleurs là-dessus, qui commencent un projet, et en commençant un projet, ils ont deux challenges. Le premier challenge, c'est pouvoir découvrir des ingrédients innovants. Mais le deuxième challenge qu'on n'avait pas soupçonné, c'est comment est-ce que je fais pour avoir un ingrédient que je peux mettre sur ma formule et qualifier rapidement.
Ouais.
Et donc aujourd'hui, on est arrivé sur une situation où le choix des matières premières ne se fait pas seulement sur le coût ou sur la performance, mais aussi à quel point est-ce que ça va être facile ou compliqué d'aller chercher la documentation pour le lancer. Ouais. Et toute la logique de notre librairie, ça a été en fait d'avoir une librairie qui est alimentés par les fournisseurs d'ingrédients, on les récompense si leur documentation est complète.
Ok, d'accord.
Et ça permet ensuite aux formulateurs de mieux choisir les ingrédients. Et la deuxième chose qui est du coup ultra pertinente et pour les fournisseurs d'ingrédients et pour les formulateurs, c'est qu'une fois qu'un ingrédient est sélectionné, il va directement dans le portefeuille ou dans l'inventaire de matières premières du formulateur.
Ok,
donc,
d'accord.
Les technologies actuelles ou les solutions actuelles, il faut aller sur un site annexe, ensuite faire une demande de documentation, ça passe par email, il faut le mettre dans le système, il faut le coder et toutes ces étapes-là, on les a enlevées en fait.
D'accord, ok. Et alors, à qui est destiné The Good Faith Project ?
Quand on a vraiment démarré sur le plan d'expansion de Good Faith, on avait deux directions. Soit on a cette première approche qui est de se dire, ben, on est très bon en réglementaire et en formulation, en cosmétique, ben, on va aller sur les produits de la maison, les suppléments, la pharma, ouais, etc. Et en fait, on a décidé de prendre l'autre partie, et de se dire, on est vraiment expert sur les ingrédients et sur la technologie associée à ça, et on va aller vraiment en profondeur sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Okay. Et cette plateforme aujourd'hui devient un peu le fil rouge, que tu sois un fournisseur de matières premières, un distributeur, un fabricant à façon, une marque ou un retailer, et ça devient en fait le fil rouge sur l'ensemble de ces acteurs en fait.
Ok. D'accord. Et alors, la crainte, c'est forcément la suppression d'emplois, notamment, je pense, oui, aux gens qui sont dans la formulation ou même dans le réglementaire.
Très bonne question. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'ère de ChatGPT, on a beaucoup de, ouais, on a beaucoup de ces craintes. D'ailleurs, je fais pas mal de formations sur l'opportunité de ChatGPT, justement, pour renforcer ses positions et ses rôles. Et les deux choses que je vais te donner en point de données, première chose, sont les formulateurs qui nous demandent le plus l'accès à The Good Faith Project.
Ouais.
Et la raison est très simple. En fait, pour ces formulateurs qui sont déjà en position, il y a tous ces problèmes de burn-out.
Ouais, c'est vrai.
Avec l'ensemble, on en revient sur la partie réglementaire, c'est par pays, par retailer,
ouais,
par standard, WG, UK, etc. Il y a les clients de tel ou tel client, les nomenclatures qui changent. Et donc, du coup, ils en arrivent à être ultra saturés. Et en fait, ce qu'on fait, on acte comme une soupape de décompression, en fait.
Ouais, c'est ça.
Donc, c'est pas du tout en remplacement, c'est en aide à ces personnes qui, en fait, travaillent trop.
C'est un super assistant, quoi.
Exactement. Et c'est pour ça que j'avais commencé comme ça là-dessus par rapport à ça, le Batman et Robin, le Robin qui va t'aider sur ta quête. Mmh. Et la deuxième partie qui est ultra importante, et là, on l'a appris grâce au retour de nos premiers clients, un formulateur, une personne en réglementaire, ils aiment bien travailler sur des choses qui sont inspirantes, innovantes et challengeantes. Quand tu passes ta journée à faire du screening de formules, ben, ça te saoule un peu. Et donc, du coup, ce que Good Faith fait, réduit l'ensemble de ces étapes à, au final, faible valeur ajoutée,
ouais, ouais,
pour leur donner plus de temps pour travailler sur des problématiques business intéressantes, challengeantes. Donc, on a, par exemple, énormément d'entrées de produits en Chine, où on a vraiment besoin de réfléchir sur ce qu'on va lancer, pas lancer, etc. On préfère donner du temps aux formulateurs, aux personnes réglementaires pour travailler sur ces gros dossiers, et pas passer 30 heures par semaine à faire un screening de Dinky pour tel ou tel retailer, quoi.
Bien sûr. Ouais, non, effectivement, t'as raison. Autre préoccupation, l'écologie. l'utilisation de l'eau, par exemple, est un vrai souci dans la cosmétique, et ça va poser de plus en plus de problèmes. Est-ce que The Good Faith Project prend ou prendra en compte ce genre de problématique au moment où quelqu'un veut formuler
Ouais, c'est une super question. Nous, quand on regarde en fait les ingrédients dans l'équation, on le regarde sur différentes dimensions. Toute la partie sécurité, toxicité, impact sur l'environnement, et la partie ingrédients et formules n'est que un des éléments sur le produit final. Au final, on a toute la partie logistique, on a toute la partie packaging, toute la partie supply, et donc la façon dont nous on regarde ça, en fait, on est drivé, on est dirigé par nos clients et principalement sur ceux qui sont au début de la chaîne.
Ouais,
fournisseurs de matières premières, les marques aussi, mais pour les plus grosses, les fabricants à façon. Et en fait, on les accompagne en leur fournissant et en leur créant des outils à un instant T qui répond au problème le plus gros.
D'accord.
Aujourd'hui, c'est vraiment la partie réglementaire et la partie sécurité, c'est ce qu'on adresse. on commence à avoir des transitions, par exemple, sur tout ce qui est produits solides. Notamment, on a une marque aux US, en Californie, qui a une ligne de produits qui est vraiment sympa, qui s'appelle Deep Sustainable, et qu'on accompagne sur la partie produits solides.
Okay.
Et donc, l'ensemble de ces sujets, nous, on les prend en fonction des demandes et on adresse et on développe des nouvelles solutions en fonction des nouvelles tendances. Une fois qu'on a clos un chapitre, dans ce cas-là, on passe au projet d'après.
Au suivant. D'accord. Et alors, autre problématique, les données. Parce que voilà, je rentre des informations sur mes formules, qui me dit que The Good Faith Project ne va pas les utiliser ou même, je sais pas, moi, je suis en France, ça, tout se passe aux États-Unis.
C'est un bon point. Et
est-ce qu'il appartient à ma formule?
Oui, est-ce qu'on va les vendre par la suite? Non, c'est un très bon point. Et ça, c'est. Alors, nous, Good Faith Project, on a vraiment. Sur la façon, en tout cas, dont on présente l'entreprise, en tout cas pour moi en Europe, on a aussi un gros devoir d'éducation. Alors, devoir d'éducation sur ce qui est fait au niveau des ingrédients et de la beauté, mais aussi devoir d'éducation sur toute la partie digitale et technologique.
Ouais.
La France, l'Angleterre, l'Allemagne, c'est pas la Californie en réalité. Donc il y a un peu plus de travail de mon côté là-dessus. Mais pour répondre à tes questions de façon spécifique, aujourd'hui la donnée, on a deux sources de données. Je dirais même trois sources de données. On a les données qui sont nos données propriétaires à nous. On a les données qui sont des données publiques accessibles par tous. Et ça, au final, ça correspond à 85-90% du pouvoir de la plateforme. Ensuite, le reste, les 10-15%, sont les données en fait propriétaires du client. Et là, on opère à deux niveaux. Pour certains clients, en fait, on a simplement des transferts de données de chez nous à leur système. C'est aussi possible. Mmh. Mais la plupart de nos clients préfèrent quand même travailler sur notre plateforme en mettant leurs données sur notre plateforme. Et à ce niveau-là, on a deux points qui sont ultra importants. Protection, sécurisation de la donnée. Donc là, il y a un standard qui est le SOC 2 standard sur la partie sécurité, privacy, le fait qu'on puisse pas être hacké, etc.
Ouais, c'est pas de l'open data.
Exactement, c'est pas de l'open data. Et d'ailleurs, sur ce qu'on entend sur ChatGPT, une des raisons pour lesquelles on n'utilise pas aujourd'hui ChatGPT et on a construit nous-mêmes notre propre IA qui s'appelle Kara. On n'a pas encore communiqué énormément, donc c'est peut-être une petite exclue de ton côté.
Super, merci.
C'est justement parce qu'aujourd'hui, ChatGPT est un aspirateur à données, en fait.
C'est ça.
Donc, cette partie-là, on s'assure qu'elle est sécurisée et qu'elle est utilisée pour le client. La seule façon dont on utilise la donnée, c'est de façon anonymisée, quand on voit qu'il y a une valeur pour l'ensemble de la communauté. Si, par exemple, on voit qu'une matière première est plus utilisée que d'autres, ou un type de matière première est plus utilisée que d'autres, et qu'on voit que ça crée un changement de tendance sur ce que les formulateurs utilisaient il y a 3 ans, il y a 2 ans, il y a 1 an ou dans 2 ans, ben, ce sont des informations qui sont valables pour tout le monde et pour la communauté.
Bien sûr.
Mais les données qui sont spécifiques à un formulateur, à un lancement ou l'autre, si on commence à les vendre ou à les partager, demain, on n'a plus de business. C'est aussi simple que ça.
Ouais, c'est ça. OK. Combien de marques utilisent The Good Faith Project?
On a beaucoup de marques qui nous utilisent aux US. Et là, je te parle des centaines de marques.
Ouais, ouais.
Et on est vraiment arrivé sur une phase d'accélération l'année dernière après notre levée de fonds. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on va sur des salons aux US, que ce soit Supplier Day, que ce soit Cosmoprof Vegas, on est obligé d'envoyer 4-5 personnes de l'équipe parce qu'on a une queue pendant l'ensemble des journées du salon. Donc là, aujourd'hui, on est vraiment sur une contrainte de pouvoir mettre sur la plateforme des marques qui sont à la limite en attente, en fait. Après, le plus simple, c'est d'aller voir sur nos sites internet. Ce qui est intéressant sur notre site internet, alors on met pas toutes nos marques, mais ça montre en fait l'éventail de types de partenaires avec qui on travaille. C'est aussi bien un L'Oréal qu'un Capsum, qu'un Detox Market sur les retailers, qu'un gros retailer comme Target. On a vraiment de tout là-dessus. En Europe, on est beaucoup plus petit. On est arrivé de façon sélective avec nos premiers partenaires. Mais là, les derniers recrutements qu'on a fait les dernières semaines vont justement aider sur l'accélération de la croissance de notre activité.
D'accord.
Aussi bien en Europe qu'en Asie d'ailleurs.
Ouais, ce que j'ai demandé aussi, est-ce qu'en Asie vous avez le même projet, j'imagine?
En Asie, c'est un gros marché. Ce qui était intéressant ce matin, j'étais avec une des très très grandes maisons de parfums en Chine. Et l'observation sur la région, que ce soit par exemple pour la Corée ou pour la Chine ou le reste de l'Asie du Sud-Est, c'est que le clean est pas encore prédominant.
Ouais, toujours pas.
Mais là où ça devient intéressant, c'est que le réglementaire devient un problème. Des marques qui sont locales, qui veulent se lancer en Europe ou se lancer aux US, c'est là où on apporte une très grosse valeur. et vice-versa, pour des marques européennes et aux US, on commence à travailler sur des partenariats locaux pour aider justement à l'enregistrement, à moindre effort, des produits US-Europe pour rentrer en Chine.
Et comment ça fonctionne pour l'entreprise qui veut avoir accès à l'outil ? Est-ce que c'est un système d'abonnement ?
On a vraiment simplifié au maximum, en fait. Donc là, sur les trois dernières années, on avait cherché un peu les différents modèles. Alors, ça reste un modèle que je vais dire standard dans l'industrie, qui est un modèle SaaS, donc un modèle d'abonnement, où les marques viennent, s'inscrivent et payent à l'année. Mais on a des profils de prix qui sont en fait différents en fonction du type d'entreprise.
Okay.
Si on est une petite moyenne marque, ça va être plutôt... à la demande, j'ai besoin de cette région, de cette régulation, de ce standard.
Okay.
Et ils payent en fait en fonction de leurs besoins et ça devient évolutif et c'est surtout ultra rapide et ultra agile. Pour les très grandes marques, on est plutôt sur des systèmes où en fait on vient se greffer et s'inclure et s'intégrer sur leur système en interne. Et pour les contract manufacturers, c'est des modèles qui sont un peu hybrides. Mais dans tous les cas, nous on a une attention particulière aux services consommateurs. Et ça commence toujours par une sorte de diagnostic. On veut s'assurer que ce qu'on propose, c'est bien dimensionné par rapport aux besoins du client. Aujourd'hui, tu peux pas venir sur Goodface et simplement mettre ta carte de crédit et on
oui,
y va.
Oui,
non,
oui,
non,
oui,
on a
non.
vraiment toute une partie de screening.
D'accord.
Et une partie de vraiment de compréhension des besoins.
Oui.
Et encore une fois, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure avec la partie éducation. Donc là-dessus, non, on est vraiment adapté aux besoins des consommateurs et des challenges qu'ils ont en interne, en fait.
Ouais, c'est vraiment à la carte, quoi.
À la carte, ouais.
Super. Merci, Lucas.
Bah, écoute, de rien. Merci. À une prochaine.
À très bientôt.
Merci, Chantal.
C'est déjà terminé. Le temps passe si vite. Merci de nous avoir écoutés. Je profite de ce moment pour vous encourager à soutenir Beauty Toaster via Patreon. Ça ne vous coûtera que 3,50€ par mois. Mais ce sera énorme pour votre podcast préféré. Retrouvez le lien direct vers ma page Patreon dans les notes de cet épisode et rendez-vous vendredi prochain, première heure, dans vos écouteurs.